Moi, le bégaiement, j'en ai tiré une force incroyable. J'avais tellement peu été écouté que je me suis dit qu'il fallait que j'écoute les gens, qu'il fallait de la bienveillance autour de moi dans tout ce que je fais. Et puis je me suis surtout dit qu'il fallait que je travaille deux, trois fois plus que les autres.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pouvez retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Vous qui m'écoutez et qui êtes fasciné par les histoires exceptionnelles de mes invités, je ne peux que vous encourager à vous le procurer en ligne ou dans votre librairie préférée. J'ai hâte, d'ailleurs, de lire vos retours. Aujourd'hui, nous allons aussi parler d'économie et j'aimerais beaucoup vous recommander un podcast à ce sujet, car l'économie peut paraître abstraite mais a bel et bien une influence concrète et un impact sur nos vies. Chaque jour, dans l'Angle Éco, François Langlais vous propose de prendre un peu de hauteur et de remettre les actus économiques dans leur contexte. Mieux comprendre les décisions économiques avec des exemples concrets et des chiffres à l'appui, c'est dans le podcast L'Angle Éco de RTL que je vous invite à écouter sur l'appli RTL ou sur votre plateforme audio préférée. Maintenant, place à l'épisode. Prendre un rendez-vous médical n'a jamais été aussi simple grâce à mon invité d'aujourd'hui, le cofondateur de Doctolib, un logiciel devenu incontournable et utilisé par plus de 70 millions de patients. Né à Paris, il souffre jeune de bégaiement mais trouve son épanouissement sur les courts de tennis. Champion de l'Open international de tennis des jeunes en 1999, il se destine d'abord à une carrière de joueur professionnel. Mais son rêve de devenir tennisman s'effondre lorsqu'une blessure le contraint à se remettre sur la voie des études. Des études brillantes. Malgré son handicap, il intègre HEC après ses classes prépa. Diplôme en poche, il travaille d'abord dans un fonds d'investissement, mais au bout de quelques années, il répond à l'appel de l'entrepreneuriat et cofonde en 2013 Doctolib, devenu leader de l'e-santé en Europe. Le temps d'une pause, il a accepté de décortiquer avec nous sa success story en évoquant son parcours, ses échecs, les façons dont il a surmonté son bégaiement, ses doutes et ses forces. Bonjour Stanislas Niox-Château.
Bonjour Alexandre.
Comment
Bonjour
tu vas
à tous. Très bien, très content d'être ici. Je connais bien le podcast, donc ça me fait plaisir d'être avec toi, d'être avec vous et passer une petite pause ensemble.
Ouais, mais moi je suis très content de t'avoir aussi. Je vais commencer par te poser ta question préférée. Si je te dis 2 puissance 8.
Alors, oh là, 264.
256.
Aïe.
T'es, quand même, t'es gonflé quand même.
Bon, écoute, explique-nous pourquoi. C'était juste pour voir si tu suivais bien.
Alors,
écoute, c'est une très bonne question. En fait, moi, quand j'ai commencé Doctolib, je recrutais les gens. Il y avait une partie de mes questions qui était 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 divisé par 2 x 2 divisé par 2. Et donc, je testais pas la capacité à répondre, parce que 256, tout le monde sait que c'est 256, mais plutôt la capacité à rebondir.
Donc, en fait, c'était la possibilité aussi de voir certains qui allaient s'effondrer à ce moment-là.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Mais j'ai arrêté depuis assez longtemps, pour être honnête.
Tu l'avais plus, celle-là. C'est marrant parce que tu en faisais une autre. Moi, je me souviens quand j'ai eu un entretien quand je suis rentré à l'école. On m'avait posé la question suivante, et c'est marrant, ça m'avait pensé à la question que tu poses assez souvent, qui était combien de gens par jour arrivent dans la ville de New York en avion? Et au début, voilà.
En fait, moi, j'aime bien ce genre de questions parce que chez Doctolib, depuis 10 ans, et c'était le cas même avant, on ne recrute pas que sur les CV, les parcours, parce que ça ne dit rien sur la capacité de travail, la capacité d'écoute, la capacité de rebondir, et puis sur les compétences des gens.
Toi qui as fait une grande école de commerce, tu es passé par la voie prépa, tu as démontré que tu étais capable quand même de travailler plus que les autres, plus que de raison peut-être d'ailleurs.
Y a des compétences sur bien sûr la capacité de travail, la capacité d'écoute, de comprendre un utilisateur. Il y a des hard skills, comme tu le dis, bien sûr, technologiquement, tout le monde ne peut pas être développeur, data scientist. Mais je pense que les soft skills, ça reste un élément fondamental. Si tu veux créer une équipe, réussir un projet sur le long terme.
C'est quoi pour toi le soft skills le plus important?
Pour moi, c'est vraiment la capacité de se remettre en question tous les jours. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais capacité d'apprendre vite, d'écouter. Et en fait, c'est l'humilité. En fait, c'est l'humilité.
Donc, accepter de ne pas savoir.
Accepter de ne pas savoir, accepter que d'autres savent mieux que toi, et accepter aussi d'apprendre. Et moi, j'ai une règle qui est d'apprendre 3 choses par jour. Et je pense que c'est une règle très importante.
T'as une règle, 3 choses par jour.
3 choses par jour. Alors, je vous rassure, je révolutionne pas ma vie tous les jours. Mais
hier, par exemple, hier, qu'est-ce que t'as appris ?
Écoute, hier, très bon point. En fait, je travaille beaucoup sur le produit de Toctolib en ce moment. Et donc, il y a plein de choses nouvelles qu'on est en train de lancer. Et donc, j'apprends des problèmes et des solutions des soignants et des patients tous les jours. J'apprends des méthodes de travail sur la construction d'un produit tous les jours. Sur l'intelligence artificielle, en ce moment, je passe 1 à 2 jours par semaine.
Je l'ai écrit dans mes 2 derniers livres. Avoir la capacité d'avoir les antennes déployées, en fait, c'est quelque chose, c'est ce que tu dis là, en fait, tu es toujours à l'écoute des autres, en fait, c'est ça, toujours. C'est
toujours à l'écoute des autres, qu'ils soient partenaires, équipiers, utilisateurs, toujours à l'écoute. Et je pense que c'est clé dans tous les domaines, dans l'entrepreneuriat, le social, le sport.
Il faut, mais moi je le dis en souriant là, parce que je le dis assez souvent, en fait, il faut partir du principe, il faut le dire, que tu ne sais rien. Moi, très souvent, dans chaque entreprise que j'ai pu démarrer, mais d'ailleurs...
Et que tout peut changer tout le temps.
Très souvent, très rapidement en plus. Mais c'est vrai, s'avouer déjà qu'on ne sait pas, c'est déjà une voie vers la sagesse, hein, déjà. Parce que c'est vrai que c'est un bon départ, parce que quand tu sais que tu ne sais pas, tu es là pour apprendre. Et je pense que c'est ce que tu fais au quotidien. Et toi, c'est assez marquant, parce que c'est vrai que Doctolib, au quotidien... et challengé par de la concurrence, par d'autres acteurs, par des technologies qui évoluent. Donc, tu as encore plus intérêt que d'autres de faire attention à ce qui se passe.
Et moi, tu le verras, peut-être qu'on en parlera aussi. Je considère que ce qui est derrière nous, c'est derrière nous. C'est vrai pour Doctolib, c'est vrai pour ma vie, c'est bien, parfait. Ce qui compte, c'est ce qui vient. Et en fait, ce qui compte, c'est ce qui vient, ça veut dire c'est ce qu'on fait, et comment on s'améliore, comment on progresse, comment on fait des choses nouvelles, comment on impacte positivement les gens.
Tu parlais de ta vie. Moi, je sais que tu organises quand même beaucoup de choses dans ta vie sur des fichiers Excel. Est-ce que tu parviens, malgré un agenda extrêmement chargé, pas uniquement de dirigeant d'entreprise, parce que tu as aussi évidemment une famille, tu as au sens large ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, ton épouse, tes enfants. Donc, tu as une vie qui est quand même assez pleine. Tu arrives de temps en temps à prendre une pause, ou est-ce que c'est vraiment un moment assez unique qu'on a aujourd'hui ?
Écoute, c'est un moment assez unique. Je suis quelqu'un de très structuré, ça c'est sûr. Alors, j'utilise plus des fichiers Excel. J'utilisais par le passé, j'en utilise plus, mais c'est presque pareil. Mais je suis quelqu'un de très structuré. Pour le coup, j'alloue mon temps toutes les semaines, en fonction des priorités de Doctolib, mes priorités aussi personnelles, familiales. Je compartimente très bien ma vie. J'alloue énormément de temps à mes enfants, à ma famille. Très peu de temps à d'autres choses. Ouais. J'alloue du temps aussi à Hocola, dont on a peut-être l'occasion d'en parler.
Bien sûr,
parler.
Qui est une structure,
même
une fondation.
Si j'aimerais en allouer encore plus.
Une fondation que tu as créée.
Mais c'est vrai que je me concentre sur Doctolib, Hocola, mes enfants, ma famille.
Un peu de sport encore.
Très peu, malheureusement. Ouais. Énorme fan de sport, mais trop peu de sport. Mais donc oui, c'est très rare que je passe du temps avec toi, avec vous, comme ça. Mais ça me fait plaisir.
On va commencer par la première pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute.
Stan, tu sais à quel point je suis admiratif de ta réussite professionnelle et personnelle. Et je voulais savoir comment tu arrives à concilier les deux avec autant de succès.
Question de Cédric Sauté, un ami d'enfance.
Incroyable, mais vous êtes vraiment fort. C'est donc, exceptionnel.
Donc Cédric qui pose cette question-là.
Je me demandais avant de venir, je t'ai dit, mais c'est tellement perso le podcast, qui vous allez pouvoir trouver ?
Ouais, tu vois, on a trouvé. Là, tu t'attendais pas
là,
à Cédric.
Là, vous avez été fort.
Hein, alors ?
Moi, j'ai 3 enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 3 ans, donc les parents.
Beaucoup de travail.
Exactement, c'est du travail.
Beaucoup de travail.
Et moi, bien sûr, j'adore mes enfants. Plus je passe de temps avec mes enfants et ma femme et mes amis, dont Cédric. Mieux je me porte. Mais en fait, pour moi, Doctolib, c'est pas un travail. Pour moi, Hocola, c'est pas un travail. On aura l'occasion de parler de cet alignement. Moi, je suis là pour essayer d'améliorer le quotidien des gens, essayer de rendre heureux les personnes autour de moi, ma famille, mes proches. Et j'alloue mon temps au mieux pour réussir à faire ça. Et je pense que je m'organise bien. Par contre, je suis très organisé. Je dors assez peu. Et je m'alloue assez peu de temps de
personnel, en fait.
Repos. Mais je pense que l'organisation c'est important, la concentration c'est important, et après j'essaye d'être heureux dans ce que je fais au quotidien.
Tu me parlais de peu de temps que tu avais pour toi. T'arrives parfois à être un peu égoïste ou en fait t'y arrives quasiment jamais?
Tes priorités sont celles des autres.
Ouais, je dirais que j'y arrive assez peu, pour être honnête. Mes priorités, c'est les miennes, mais c'est les miennes pour les autres.
Pour les autres.
Mais ça reste mes priorités. C'est-à-dire que chez Doctolib, on a des priorités claires pour améliorer le quotidien des soignants, des patients. Avec Marine, ma femme, on a aussi des priorités claires. Ouais. Mais par contre, tout n'est pas qu'une question d'objectif. Et ça, je pense que je l'ai appris dans les 10 dernières années. Moi, je ne vis pas avec des objectifs. J'ai des objectifs, je me mets des objectifs, mais j'essaie de laisser aussi de la place pour l'imprévu et
vraiment,
de plus en
toi,
plus.
Toi, tu arrives à faire de l'imprévu.
Ouais,
de plus en
dans
plus.
Un cadre, dans un cadre.
D'accord, de l'imprévu dans un cadre, quand même. Il ne faut pas non plus trop déconner. Hein.
Incroyable que vous ayez contacté Cédric.
Merci beaucoup, Cédric, pour ta question. Je le disais en introduction, tu es né à Paris, tu as grandi à Boulogne-Billancourt, tu as grandi auprès de tes trois frères et sœurs, ta maman est institutrice de maternelle, ton papa est informaticien. Il y a une figure importante dans la famille, d'ailleurs, qui est ton arrière-grand-mère, Marie-Aimée Noack-Château, importante parce qu'elle a sauvé des vies. Elle s'est mise au service des autres. Là, on parle de la Seconde Guerre mondiale, une juste, comme on l'appelle. Tu peux juste, parce qu'après, elle a fait avant et après aussi des choses assez incroyables. Si tu peux justement nous dire en quelques mots,
alors moi, je l'ai connue ma première année de vie.
Oui, non, parce qu'elle est décédée quand elle avait 2 ans.
Mais donc, Marie-Aimée, elle a fait 2 choses incroyables. La première, c'est qu'elle a été juste, puisqu'elle a sauvé des Juifs pendant la guerre, dont Simone Veil, qu'elle a recueillie après la guerre à la ferme de Lettra, près de Lyon. Et donc, voilà, donc elle a recueilli Simone, mais aussi d'autres Juifs, pendant et après la guerre. Et deuxième chose, c'est qu'elle a importé la méthode Montessori en France. Et donc, elle a créé 2 écoles, à Boulogne et à Levallois, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, c'était une grande pédagogue, institutrice. Et puis, je dirais qu'elle a fait une troisième chose, c'est qu'elle nous a implanté aussi dans un joli coin des Alpes, qui est Saint-Nicolas-de-Véros. Je vous invite à aller passer
à côté de Saint-Gervais.
À côté de Saint-Gervais, près de Chamonix.
Parce qu'elle a, voilà. Donc vous avez un endroit, un chalet, ça s'appelle le chalet.
Elle a construit un petit chalet à l'époque, dans un pré, au milieu de nulle part. Bon, il se trouve que ça s'est trouvé devenir une station de ski après.
À côté.
Mais donc, voilà.
Et c'est là où tu aimes, en famille, vous aimez d'ailleurs vous retrouver en famille.
C'est un coin endroit essentiel pour vous. Dans la Haute-Savoie française.
Marie-Aimée, toi qui ne l'as pas connue, qui a entendu parler d'elle par, évidemment, les textes, la famille, tes parents, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Quelle source d'inspiration?
Mon arrière-grand-mère était institutrice, ma grand-mère était aussi professeure, ma mère était professeure, ma femme a passé aussi les études pour devenir professeure en maternelle. Maintenant, elle est psychologue et elle s'occupe de notre fondation. Mais donc, je pense qu'il y a une tradition familiale autour de l'enfant, autour de l'éducation, autour du partage, autour de la bienveillance. Et je pense que ma mère aussi m'a apporté ça, probablement une des personnes les plus bienveillantes au monde, des plus dévouées à l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a façonné étant jeune. Et je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir cette bienveillance. Je sais qu'il y a certains entrepreneurs qui ne sont pas bienveillants. Je me demande, et d'ailleurs je vous pose la question, comment réussissent-ils? Franchement, je m'interroge. Je ne sais pas comment on peut être entrepreneur, emmener 3000 personnes comme il y a chez Doctolib aujourd'hui ou des dizaines de milliers, ne pas avoir cette bienveillance. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ne le sont pas. Je me pose vraiment cette question.
Là, tu parles d'entrepreneur, mais ce n'est pas que d'entrepreneur. Ça peut être des dirigeants d'entreprise, des chefs de projet. Enfin, du moment qu'il y a des gens sous votre responsabilité.
Exactement. Moi, quand je parle d'entrepreneur, c'est vrai, c'est un bon point. Mes équipiers chez Doctolib le savent. Pour moi, entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui crée sa boîte. Pour moi, entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère un projet, qui a une vision, qui essaie de mettre en action ce projet. En fait, je ne sais pas comment c'est possible de réussir sans bienveillance.
J'achète assez facilement ton point. J'ai récemment, tu le sais, publié mon nouveau livre qui s'appelle Pause pour une vie alignée. Et je dédiais dans ce livre un chapitre sur la culture de l'effort. En ayant évidemment mon exemple, mais tout un tas d'exemples d'autres personnes qui me disent que la réussite qu'ils ont pu avoir dans leurs objectifs qu'ils se sont donnés, donc tout est relatif aux objectifs que tu te donnes, n'a jamais été possible autrement que par travailler beaucoup. Toi, je sais que c'est un sujet pour toi. Ça vient d'où, ça? Parce que tu me parles de ta maman qui est institutrice, de ton papa informaticien. À quel moment
La culture du travail, ça vient de mon papa.
D'accord. La bienveillance maman et le travail papa. Exactement. C'est bien, ça, c'est chouette.
Mon papa qui a une culture du travail extraordinaire, une culture aussi du dévouement extraordinaire et aussi de la résilience. Et donc voilà, il m'a appris ça. Il m'a appris ça dans le tennis, puisque avec lui, j'ai joué au tennis quand j'avais 2-3 ans. Enfin, j'ai commencé à 2-3 ans et puis je me suis entraîné au tennis 2-3 heures, puis 8-10 heures par jour. Et donc, cette culture du travail dans le sport, elle est très importante.
Mais c'est lui qui te poussait ?
Oui, non.
Il te poussait parce que moi, j'ai rarement vu des jeunes
pour le coup,
qui n'étaient pas un peu poussés par les parents. En tout cas, ces journées-là, toi, t'étais...
Franchement, j'avais cette capacité de D'accord. travail depuis le début. Alors, elle m'est forcément venue de quelque part, D'accord. probablement de mes parents.
Mais t'as eu ça en toi, t'es
ouais,
très tôt.
Exactement. Très vite, j'ai eu cette culture de l'effort et du travail. Vous savez, le tennis, c'est un sport qui est assez dur, hein, parce que le ratio nombre de personnes qui veulent devenir professionnelles sur nombre de personnes qui le sont, il est très faible.
Très faible, évidemment.
Et c'est un sport qui est dur parce qu'il est individuel et qu'en début de chaque semaine, il y a une centaine de joueurs qui commencent le tournoi et il n'y en a qu'un qui gagne. Et donc, c'est très dur parce qu'on perd toutes les semaines et on est seul.
C'est bien. Dans mon livre, je parle aussi beaucoup des limites. Toi, cette limite, elle a été tôt dans ton existence, parce que quand tu étais jeune, tu as eu ce bégaiement, très jeune, 3-4 ans, c'est ça ?
Exactement. Que j'ai encore un peu, vous pouvez l'entendre.
Ouais,
Honnêtement,
si tu le dis pas,
ouais,
je pense que ça pourrait être comme Marine qui, quand elle t'a rencontré, pensait que tu choisissais bien tes mots. Cette limite-là, comment toi tu l'as vécue ? Est-ce que tu as rapidement été suivi ?
Le bégaiement, c'était un handicap extrêmement dur pendant une dizaine d'années. Et quand je dis dur, je pèse mes mots. Hein. C'était vraiment c'était un facteur de dépression pour moi. Quand j'avais une quinzaine d'années, je vivais à Poitiers à ce moment-là dans un camp d'entraînement.
Donc un sport-études. Hein.
Sport-études, un peu à l'ouest de Poitiers, où allait d'ailleurs Joe Tsonga et d'autres joueurs
des joueurs
de
moyens, c'est ça, des joueurs moyens.
Et pendant quelques mois, je ne pouvais pas parler. J'avais presque baissé les bras de pouvoir parler dans ma vie. C'est assez incroyable hein, quand on m'écoute aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas vrai, mais j'avais baissé les bras de pouvoir parler pendant quelques mois, à cet âge-là, une quinzaine d'années, et j'ai jamais levé la main une seule fois en classe dans ma vie, jamais une seule fois. C'est-à-dire que même aujourd'hui quand je vais au restaurant, je me rappelle encore des sueurs froides avant de commander, même aujourd'hui, alors que je fais des podcasts, de la télé, de la radio, qu'il y a 3000 personnes chez Doctolib, que j'ai fait du porte-à-porte chez Doctolib pour aller voir les soignants pendant 10 ans dans tous les coins de France et d'Allemagne. Donc, mais c'était tellement dur de parler, tellement dur de pouvoir faire 3 phrases. J'en ai tiré une force incroyable qui est liée à 1. Je me suis dit qu'il fallait que j'écoute les gens. J'avais tellement peu été écouté que je me suis dit qu'il fallait que j'écoute les gens. Je me suis dit qu'il fallait de la bienveillance autour de moi, dans tout ce que je faisais. Je me suis dit qu'on pouvait créer des projets avec un cadre de travail différent. Et puis, je me suis surtout dit qu'il fallait que je travaille 2-3 fois plus que les autres. Et donc ça, c'est un point très important pour revenir sur ce que tu disais sur l'effort. Pour moi, le bégaiement, ça a été un facteur de travail. Et ça peut paraître un peu dingue, mais en gros, je me suis dit, je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux avoir un impact sur les gens. Je bégaye, donc je ne vais pas pouvoir travailler dans une entreprise normale. Je ne vais pas pouvoir faire la politique. Je ne vais pas pouvoir bien communiquer. Donc, il faut que j'ai des compétences. Ces compétences, ça peut être les mathématiques. Ces compétences, ça peut être des...
15 ans, quand tu ne parles plus ou quasiment plus, comment tu arrives à te projeter dans la vie ?
Je voulais devenir joueur de tennis. Donc, pour être joueur de tennis, parler, c'est pas très important. Déjà, c'est quand même un premier point. C'est que, en jouant au tennis, j'avais pas besoin de beaucoup parler, même si je me disais, mais comment je vais faire pour parler à la télé? Comment je vais faire pour parler à la fin d'un match?
Et quand j'ai gagné Roland Garros, comment je vais être interviewé? C'est ça, c'est
ça. J'avoue, j'ai été très, très loin de gagner Roland Garros. Mais tu vois, à l'époque, quand t'es à 12, 13 ans, c'est ce que je me demandais. Et après, en fait, quand j'ai arrêté le tennis vers 16, 17 ans, ouais, ça a été très, et d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit que je n'allais pas faire des études de commerce, j'allais plutôt faire des études d'ingénieur, parce que j'avais des facilités en maths, j'avais des facilités sur les choses de l'ingénieur en sens large. Et en fait, j'ai fait l'inverse et c'était un super choix. Parce qu'en fait, je me suis confronté à un oral qui est l'un des plus durs en France, qui est l'oral d'HEC. Je me suis confronté à toutes après à HEC, toutes les épreuves autour de l'oral. Et petit à petit, en fait, j'ai gagné confiance en moi. Et la confiance, je pense qu'elle est clé. et la confiance, c'est deux choses. C'est que j'ai prouvé que malgré mon phrasé, malgré ma voix, je pouvais réussir des études, je pouvais faire quelque chose de ma vie. Et donc ça, c'est arrivé progressivement à HEC et puis après HEC dans mes expériences professionnelles. Et deuxième, c'est la confiance aussi personnelle d'avoir trouvé une épouse. Parce que quand tu parles comme je parlais il y a 20 ans, tu te disais...
Je me disais... Comment faire pour trouver? Donc Marine que tu as rencontrée en prépa, à votre prépa Saint-Louis.
Exactement.
Et c'est retrouvée. Et donc Marine a été protectrice. En fait, elle était beaucoup plus...
Marine, c'est sûr qu'elle a eu un impact. C'est même pas un impact, c'est un impact probablement le plus important pour m'aider à traverser le paiement, m'aider à traverser un peu le côté dépressif qui était le mien à cette époque-là, qui était très négatif, très renfermé. Et donc, bien sûr, elle m'a plus qu'aidé. C'est elle qui m'a mené vers ce chemin-là. Donc, je dirais confiance. Grâce à la réussite personnelle, professionnelle, confiance grâce à Marine. Et puis après, à un moment, je me suis dit, et so what? Et ça, c'est une...
C'est quel âge, tu dis so what?
Une orthophoniste qui m'a dit ça, quand j'étais en prépa, donc j'avais 18 ans. Et elle m'a dit, so what? Et ça, ça a en partie changé ma vie. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai ce handicap, et alors? Et en fait, j'essaie de me l'appliquer dans tout ce que je fais. Et moi, je pense que personne n'est limité par son potentiel. Bien sûr, il y en a qui ont des talents plus ou moins importants, qui sont nés dans des cadres de vie plus ou moins aidants. Mais je pense que si on travaille dur, si on met de la bienveillance, si on met du don de soi, on peut tous réussir.
Beaucoup de Françaises et de Français, tu connais les chiffres.
Bah, c'est 600 000 personnes qui bégayent aujourd'hui et encore. Il y a beaucoup de Français qui ont bégayé étant petits, à l'âge de 4, 5, 6 ans, et le bégaiement s'atténue progressivement. Mais c'est quand même l'une des rares maladies qui n'est pas reconnue comme telle. C'est partiellement reconnu comme un handicap. Il y a un président américain qui s'appelle Joe Biden qui bégayait et qui, durant sa campagne présidentielle, a dit que c'était une des dernières maladies pas reconnues comme telle. De manière générale, la santé mentale, malheureusement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, elle est peu reconnue. Soutenu, il y aurait beaucoup de choses à faire en France.
Sur la santé mentale, le sujet qui m'a beaucoup touché quand j'ai perdu mon frère il y a 7 ans de ça, qui était bipolaire. Donc je me suis rendu compte du vide qui existe sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ces cas-là? C'est d'en parler déjà?
Il y aurait plein de choses à dire. Déjà, la santé mentale, c'est une des choses les plus inégalitaires en France. Inégalité financière, parce que les psychologues sont non remboursés par l'assurance maladie. 27 000 psychologues libéraux. Et donc, il y a 2,5 millions de Français qui sont suivis par des psychologues aujourd'hui, mais il y aurait probablement 8 à 10 millions de Français qui devraient le faire.
Qui voudraient.
Donc, inégalité financière, inégalité régionale, parce que la répartition des psychologues n'est pas du tout égalitaire sur le territoire national. Inégalité aussi de compréhension. C'est un peu tabou dans certains milieux, dans certains cadres de vie, de dire « je vais voir un psychologue, je vais parler avec un psychologue ». Et donc, oui, il faudrait qu'on résorbe ces inégalités. Et ça, je pense que le politique a quelque chose à faire. Inégalité financière, régionale et d'action et d'accès.
Et technologique aussi, parce que là, on parle de ça.
Moi... Et puis, il y a un enjeu aussi de recherche, parce que l'industrie pharmaceutique fait peu de recherche sur la santé mentale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas remboursé. Pourquoi? Parce que l'État ne finance pas. Et donc, il y a peu de recherche. Et bien sûr, il faut qu'il y ait de la recherche, lutte contre le cancer, maladie cardiovasculaire, respiratoire. Mais la santé mentale, je pense qu'il y aurait beaucoup de recherche à faire autour de la santé mentale. La France est l'un des pays qui médique le plus. Donc, qui prescrit le plus d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Alors qu'il y aurait plein de choses à faire en complément de ces anxiolytiques, antidépresseurs. Moi, c'est une cause qui me tient à cœur, à cause du bégaiement, qui me tient à cœur, à cause de Doctolib. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire.
Et en plus, ton épouse, Marine, qui avait fait un parcours très start-up pendant des années, change ou a changé.
Exactement, elle est dans un hôpital psychiatrique maintenant.
Et voilà, elle est devenue psychologue, donc c'est des sujets que...
Et ma sœur aussi est psychologue à l'hôpital, à Gustave Roussy en ce moment, pour aider les patients atteints de cancer. Et sur la santé mentale, franchement, il y a tout à faire. Si vous avez des idées, des projets, n'hésitez pas, réalisez-les, contactez-moi.
Important, comme à chaque fois, et c'est ce que tu fais toi sur le bégaiement, tenter, quand c'est faisable, d'en parler. Parler à des gens qui ont vécu ça, parce que comme on n'en parle pas, parfois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Tu l'expliques d'ailleurs sur le bégaiement.
Sur le bégaiement, aujourd'hui, il n'y a pas de recherche scientifique ou peu. Il y a peu d'organismes qui aident les parents d'enfants atteints de Pékinman. Les orthophonistes sont complètement écroulés sous les demandes. La profession est assez peu reconnue, peu valorisée, alors que pour le coup, il devrait y avoir une meilleure rémunération, plus de plans de carrière, plus d'orthophonistes. Et puis, psychologue, même chose. Enfin, il y a vraiment tout à faire. Moi, j'essaye d'ignorer ce que les Américains appellent les naysayers. Et donc, j'essaye d'ignorer toutes les remarques négatives pour me concentrer sur mon travail, sur ce que je sais bien faire. Et vous savez, souvent, les gens, ils disent « travaille tes points faibles ». Je pense que travailler ses points forts, c'est aussi très important.
Tu parlais des études, toi, tu as fait sport-études. On parlait d'un handicap tout à l'heure. Là, on parle d'une blessure, qui est une blessure physique. Tu as 17 ans et... t'as une blessure suffisamment grave pour comprendre que tu ne seras jamais sportif, c'est ça? Ou tu t'es rendu compte que tu n'avais pas, pas le niveau?
Exactement, c'est pas la raison numéro un. Moi, donc, j'ai commencé à jouer au tennis à 2-3 ans. Sport-études à partir du collège. De la 6e à la terminale, sport-études.
Poitiers?
Alors, au début à Paris.
D'accord.
Entraîné à la Ligue de Paris et puis après à la Fédération
Parce
française.
Parce que tu étais champion de Paris, hein, il faut bien comprendre. C'était le champion de sa catégorie en France.
Ligue
à
de Paris.
Paris,
j'étais parmi les meilleurs Français jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Aller à Poitiers dans un camp d'entraînement, il y avait trois grands camps d'entraînement à l'époque, où allaient tous les grands joueurs français comme Gaël Monfils, Joe Tsonga, etc. Il y avait Reims, Poitiers, Poulouris dans le sud. Moi, j'étais à Poitiers. Et donc voilà, j'ai passé un an là-bas. Après, en première, j'avais arrêté les études. J'étais en cours par correspondance.
Ouais, CNED. Hein.
CNED. Donc là, je suis parti vivre à Barcelone, à Santa Coloma de Cervelló, au sud-ouest de Barcelone, dans un camp d'entraînement de Sergi Bruguera. Je ne sais pas si certains d'entre vous...
Double champion, double Roland Garros.
Bien sûr. Numéro un mondial, espagnol, grand joueur de tennis. Il a créé un camp d'entraînement, camp Sergi Bruguera. Donc j'ai passé... un an dans ce camp d'entraînement. Donc en gros, je jouais toute la journée et je faisais un peu d'études le soir et le week-end, mais j'étais seul, donc je travaillais seul.
À quel moment tu te rends compte
Là, je commençais déjà à être un peu moins bon. En fait, j'étais meilleur français jusqu'à 12-13 ans. Après, j'étais top 5 jusqu'à 13-14 ans. Puis là, je commençais à être plutôt top 10 français de mon âge et donc je commençais à être vraiment moins bon. Et à ce moment-là, en fait, je suis revenu en France. J'ai fait un sport-études en terminale. Et là, j'ai dû faire un choix. Et j'étais vraiment moins bon. Et donc, j'avais deux choix. Soit je continuais les études en France, soit je partais vivre aux États-Unis.
Oui.
Parce qu'aux États-Unis, on peut continuer à faire des études en même temps qu'on fait du sport. Malheureusement, on ne peut pas le faire en France.
Ça, c'est vraiment un.
Et deux de mes meilleurs amis sont partis aux États-Unis, à UCLA. Et donc, moi, j'avais deux choix. En gros, études ou aller aux États-Unis. Être professionnel, j'étais vraiment trop loin pour le faire. Et finalement, j'ai choisi les études. J'adorais les maths, la philo. Et donc voilà.
Attends deux secondes, parce que moi, j'arrive pas. Moi qui étais fan de sport comme toi, plus jeune, qui n'avais jamais dans aucune discipline le même niveau que toi, j'étais bon partout, excellent nulle part. Donc tu vois, j'étais vraiment. je m'amusais avec tout. Mais même moi, déjà, quand je me suis dit, j'allais pas gagner le grand chelem de rugby ou Roland Garros, ça m'avait mis un coup. Toi qui, matin, midi et soir, dormais avec un poster de je ne sais pas qui était au-dessus de ton lit, c'était qui d'ailleurs le poster au-dessus de ton lit?
Écoute, moi j'aimais bien Juan Carlos Ferrero.
D'accord, un autre espagnol, grand fan de terre battue, je vois, avec une prise de raquette très spécifique. Mais toi, quand tu comprends ça, c'est toi qui comprends tout seul? C'est tes parents qui disent?
Non, c'est moi qui comprends tout seul, ça a été assez progressif sur deux ans.
Mais ça fait mal, non?
Écoute, en fait, à l'époque, c'était difficile pour moi parce que mon bégaiement, c'était vraiment le pic, c'était très dur pour moi. Et le tennis s'arrêtait.
Ouais, donc là, c'était quand même...
Mais en fait, je me suis relancé en prépa et comme en prépa, je travaillais jour et nuit. Après,
mais là, il y a quand même 3 ans entre les deux. C'est-à-dire que là, tu me dis qu'à 15 ans, tu as ton bégaiement, tu te rends compte que tu es 5e puis 10e. Là, quand tu as, tu étais en dépression, mais c'était même pas en dépression. Là, c'était la dep absolue, quoi.
Ouais, après, depuis une dizaine d'années, j'avais vécu le bégaiement, j'avais vécu le sport de haut niveau, donc j'avais accumulé un peu de résilience quand même.
C'est que ça, moi, c'est marrant. Moi, je pensais que ça allait être.
Mais je sais pas, je suis positif.
Tu es positif, c'est ça. Tu t'es dit, ok, je vais voir.
Après, j'ai une capacité à oublier le passé.
Ouais.
C'est bon.
Ouais. Donc là, tu te rends compte que c'est pas pour toi. Tu te projettes donc sur les études.
En prépa, je suis arrivé, de sport-études, la fleur au fusil, et j'ai intégré une super prépa qui s'appelle Saint-Louis, qui est une prépa publique dans le centre de Paris, qui est super parce qu'elle recrute sur la diversité. C'est assez rare dans des prépas élitistes. Donc, des gens un peu partout en France, avec des profils originaux. Je suppose que c'est pour ça qu'ils m'ont pris, parce que profil sport-études, en général, tu ne vas pas à H4 Louis-le-Grand ou autre. Et donc, voilà, donc on m'a pris à Saint-Louis. Et j'ai adoré.
T'as adoré la prépa. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que souvent les jeunes qui font prépa, soit ils aiment beaucoup, soit ils détestent. Il y a deux écoles.
En fait, j'ai adoré l'apprentissage. Ouais. J'ai adoré rencontrer la femme de ma vie.
Ouais. T'aurais dû commencer par là. Par contre, j'ai moins adoré. Quand Marine m'a écouté, t'aurais dû commencer par là.
Et par contre, j'ai moins adoré le stress. Notamment lié à ma voix, ma parole, donc que vous ayez en tête, il y a en prépa ce qui s'appelle les calls. Donc les calls, c'est toutes les semaines, deux, trois fois, on passe devant des professeurs pour voilà, réciter, expliquer, et c'est dur, hein. C'est le rouble en Russie, c'est la ruralité en France entre l'entre-deux-guerres, et j'étais très très stressé, donc je vomissais avant chaque call de prépa, donc deux, trois fois par semaine quand même. Mais je dirais que j'en garde plutôt un bon souvenir de cette période-là. Mais je pense que c'est parce que j'ai une belle capacité
à
tirer le positif.
T'es assez balèze là-dessus. Je pense que tu mets vite de côté. Mais je vais quand même aller creuser un peu. C'est un truc qui a été, selon moi, douloureux. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, cette prof d'espagnol. T'arrives là-bas, t'as évidemment un bégaiement assez fort, encore en prépa, en tout cas au début de prépa.
Et cette prof, pendant toute la prépa.
Et cette prof, donc ça dure deux ans, une prépa normalement, cette professeure d'espagnol te dit, textuellement, je ouvre les guillemets, Stanislas, vous ne réussirez jamais.
Elle me dit même de ne pas aller au Concours. Alors qu'en prépa, tu travailles jour et nuit pendant deux ans.
Oui.
Et elle me dit à deux mois du Concours, que je ne pas aller au Concours. Bon, il se trouve que j'étais pas très bon en langue, en espagnol mais sans lien, en fait. Elle me dit ça à cause de mon bégaiement.
Et c'est quoi ta réaction quand elle te dit ça? Tu lui réponds? Tu passes à autre chose?
Franchement, sous le choc, non, je réponds même pas.
Mais t'es choqué, là, tu dis... Je me demande
si elle a raison. Après, je travaillais tellement dur que je me dis c'est pas possible. Et en fait, je pense, un des déclencheurs de la confiance... C'est que j'ai passé les concours. À HEC, j'étais 700e après les écrits. Il n'y a que 360 personnes qui sont admises. Et j'ai fini dans les premiers à l'oral. Et ça, c'est assez incroyable. Et je tiens à remercier les institutions et HEC, mais aussi les autres écoles qui, en fait, n'ont pas discriminé sur mon bégaiement. Et ça, je pense que c'est assez incroyable. Il faut quand même le dire, parce qu'on parle beaucoup de discrimination à l'école, d'élitisme, etc. Et là, en fait, elles ne m'ont pas discriminé. Alors que j'avais un tiers-temps à l'oral à l'époque. J'avais 20-30% de temps en plus, parce que je parlais deux fois moins vite que les autres. Et elles ne m'ont pas discriminé. J'ai eu quasi toutes les meilleures notes à l'oral à l'époque.
Elle te dit « tu ne réussiras pas », elle te le dit avec ces mots. Qu'est-ce que tu donnerais comme méthode aux auditrices, aux auditeurs aujourd'hui qui reçoivent ça?
J'essaye d'ignorer ce que les Américains appellent les naysayers. Et donc, j'essaye d'ignorer toutes les remarques négatives, pour me concentrer sur mon travail, pour me concentrer sur ce que je sais bien faire. Et vous savez, souvent, les gens, ils disent « travaille tes points faibles ». Je pense que travailler ses points forts, c'est aussi très important. Et donc, ça aussi, je me l'applique. C'est-à-dire que, oui, j'avais un gros point faible, j'étais pas capable de parler bien. Mais j'avais aussi des points forts. J'étais très fort en maths, très fort en philo. J'avais une bonne culture générale. Et donc voilà, c'est...
Ça m'intéresse. On va s'arrêter deux secondes sur ce que tu viens de dire là. On va continuer à parler de tes études. Et je te propose une autre pause amicale. On écoute.
Bonjour Stan. Ce devait être en 2013 ou 2014. Tu étais venu avec Marine, ton épouse, faire passer des simulations d'entretien au lycée Saint-Louis, là même où j'ai eu la chance de vous connaître. C'était donc au tout début de Doctolib. Je t'avais délibérément placé dans un jury associé à mon meilleur ami Pierre, cardiologue. Au sortir des épreuves, il s'inscrivait immédiatement sur ta plateforme. Je cite Pierre, « Je n'ai jamais vu un commercial pareil. Il bégait, mais il a une telle force de conviction et il est tellement sympa. Ce qui m'inspire deux réflexions. Je n'ai, comme tu le sais, jamais pensé que c'était un handicap, surtout chez toi, ce bégaiement. Par ton intelligence, tu mettais tout le monde en demeure de t'écouter. Et c'est un fait, ce bégaiement augmentait ton charisme. La deuxième réflexion, c'est justement ta capacité à susciter autour de toi la dynamique. C'est donc le manager que j'interroge ici. Tu as bien sûr obtenu des levées de fonds, tu as constitué des équipes, commerciaux, ingénieurs, médecins, dentistes, etc. D'où te viennent ces convictions qui te permettent d'effacer tous les obstacles et d'obtenir l'adhésion souvent enthousiaste de tes partenaires?
Incroyable.
Daniel.
Vous êtes fort.
Daniel Saadoun, ton professeur de philo, donc là on est en prépa.
Incroyable, moi je retiens plein de choses de Daniel. Déjà je retiens son « bonjour » que je m'appelais tout le temps. Et après, bah, il a cru en moi, d'autres ont cru en moi. Et pour en revenir à sa question, et bien sûr je le remercierai jamais assez. Et pour en revenir à sa question, je pense que le bégaiement, ce qu'il m'a appris, c'est vraiment l'écoute. Et donc la capacité à travailler avec les autres. Et à juste donner de moi-même. Et à juste être honnête, juste être authentique. Et en fait, je pense que c'est ça, être un bon manager. Vous savez, il y a plein de bouquins sur le management, peut-être que vous en avez lu. Et ce qui compte à la fin, c'est juste être humain, être vrai, être authentique, mettre de la passion, mettre du travail. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et je pense que c'est un peu ce qu'il a dit, c'est que moi, je ne suis pas plus doué que les autres. Je travaille et j'essaie de mettre du cœur à l'ouvrage et j'essaie de bien faire les choses. Et par contre, quand je suis convaincu que c'est une chose bien, par exemple, je suis convaincu que ce qu'on fait chez Doctolib, c'est bien pour les soignants, c'est bien pour les patients, je le fais à fond et je ne lâche pas. Et même chose dans les autres projets que j'entreprends. Moi, j'ai compris que la voix, ce n'était pas que la fluidité. En fait, la voix, et je sais pas si tu le, mais tu le sais puisque tu le fais très bien. La voix, c'est aussi l'intonation, les pauses, c'est aussi les gestes, c'est aussi le regard. Et puis c'est aussi juste ce qu'on veut dire. C'est le contenu de ce qu'on veut dire. Et le contenu, bah, il est plus important que la manière dont on le dit. Et vous savez, bah, le monde politique, malheureusement, il se concentre énormément sur la manière de le dire. Et il se concentre énormément sur l'instantanéité de la communication. Alors que bah, le contenu, ça reste la chose la plus importante. Et ce qui compte, je pense, pour être quelqu'un qui change la vie des gens, qu'on soit politique, entrepreneur, sportif, artiste, bah, c'est est-ce que j'apporte quelque chose de concret, de tangible ? Est-ce que quelque chose de concret et tangible, il est dans le quotidien des gens ?
Daniel Saadoun, merci pour ta question.
Incroyable.
Après l'école, tu rejoins un fonds d'investissement, Otium Capital. Tu rencontres deux personnes importantes, Antoine Fraise et Pierre-Édouard Sterrin. Ouais. Là, on parlait de rencontres, on en parle souvent de rencontres. Comment ça se passe là ? Pourquoi d'ailleurs un fonds d'investissement ? Il y a une raison ? Tu hésitais entre ça
alors,
et autre
en
chose ?
En fait, ce n'était pas vraiment un fonds d'investissement, je vais te décevoir. Mais à l'époque, Pierre-Édouard, donc fondateur des coffrets cadeaux Smartbox, il voulait créer des projets. Et donc, il avait de l'argent de Smartbox. Et donc, il a recruté Antoine, Philippe et moi pour aller lancer des projets.
Un studio, en fait, une sorte de studio.
Et donc, ça n'avait de fond que le nom. Hein. Et donc, on a participé à plein de lancements de projets. Ouais. On a participé à des lancements de projets sur Internet, des lancements de logiciels dans l'univers du loisir, dans l'univers du bien-être, dans l'univers du, voilà, du voyage.
Pourquoi après HEC, tu veux faire ça ?
En fait, je voulais être entrepreneur.
Ah, c'est sûr.
Exactement.
Depuis longtemps ?
Depuis assez longtemps, en fait. Même, et en y repensant, même depuis l'enfance, avec mon frère, on avait déjà des projets autour de l'environnement, on avait déjà des projets, toujours avec des projets entrepreneuriaux. Et donc, je pense que depuis assez longtemps, je voulais être entrepreneur. Et le sport, c'est de l'entrepreneuriat, en fait. C'est, tu mènes ton bonhomme de chemin, tu crées ta barque.
Ta propre entreprise, c'est ça que tu dis.
Exactement. Et donc, en fait, depuis assez longtemps, j'ai voulu être entrepreneur. Et au moment où j'ai arrêté le tennis, au moment où je souffrais du bégaiement le plus, c'est devenu évident pour moi, je vais peut-être te décevoir. J'ai pas voulu être entrepreneur parce que je voulais devenir Elon Musk ou gagner des milliards, mais parce que je voulais faire une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. Ouais. Je voulais faire une entreprise bienveillante dans laquelle on peut avoir de l'impact. Et en fait, très vite, je me suis dit ça. Et donc, à HEC, avant cette expérience avec Pierre-Edouard et Antoine chez Autium, avant ça, en fait, j'avais aidé un entrepreneur au Vietnam pour aller structurer son entreprise. Donc, c'était le frère de mon entraîneur de tennis qui avait créé une entreprise de 200 personnes au Vietnam. Et donc, j'avais aidé cet entrepreneur pendant 6 mois à 21 ans. Comme ça, j'étais allé l'aider. J'avais fait 6 mois aussi en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, pour aider un grand groupe de minerais de fer dans un super cabinet de conseil en stratégie qui était le seul d'ailleurs à m'avoir pris quand tous les autres grands cabinets de conseil en stratégie m'avaient discriminé explicitement à cause de mon bégaiement. Je me permets de le dire.
Explicitement.
Je ne l'ai jamais dit à une antenne. Exactement. Explicitement, parmi les plus grands cabinets de conseil en stratégie du monde que je ne citerai pas
tu peux tout citer ici.
À cette antenne, mais explicitement, les recruteurs m'avaient dit « Écoute Stan, tu m'as l'air bien, tu m'as l'air intelligent, tu m'as l'air travailleur, mais impossible de te mettre devant un client. » Il m'avait dit ça, hein, et j'avais 21 ans, 22 ans à l'époque. Grand, grand cabinet de conseil en stratégie.
Tu penses que ça se dit encore, ça, aujourd'hui ?
Écoute, je pense pas, parce que c'est incroyable quand même d'être capable de dire quelque chose comme ça à un enfant, à un jeune comme moi, des 21, 22 ans. Pour le coup, je remercie CVA, je fais un peu de pub pour eux. Cabinet de conseil en stratégie, qui est un tout petit cabinet de conseil en stratégie, mais super, qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé en Mauritanie, au milieu du désert à Zouerat, pour travailler pour
personne,
un groupe
de... Il n'y avait personne, on n'a pas trouvé un consultant, ils se sont dit tiens, hop.
Incroyable d'envoyer un jeune en stage au milieu du désert à Zouerat, qui était quand même, on était escorté par l'armée dans le... du président de l'État, enfin, c'était un truc assez incroyable.
Mais tu, c'est quelque chose que tu dis, et c'est important de repréciser, hein, parce que tout à l'heure tu disais, tu faisais une comparaison avec tu ne faisais pas ça pour être Elon Musk. C'est important et qu'on continue à le préciser pour toute personne qui veut être entrepreneur ou qui est entrepreneur et qui développe des projets. Il faut bien définir ses objectifs. Ses objectifs, si c'est uniquement d'être le plus riche du quartier ou celui qui a levé le plus d'argent, c'est pas... Ça, tu termineras triste et malheureux. Il faut arriver à chaque fois
moi,
à définir.
Moi, j'en ai toujours rien eu à faire du montant levé. La valorisation de Doctolib, elle est juste là pour que la répartition du capital, elle soit plus en faveur des gens qui travaillent. Moi, je suis entrepreneur pour deux choses. Je suis entrepreneur parce que je veux améliorer le quotidien des gens. Je suis entrepreneur parce que je veux avoir une équipe qui est heureuse. Et j'ai pas choisi Doctolib par hasard. J'ai pas choisi la santé par hasard. J'ai pas choisi mes équipiers par hasard.
Attends, mais là, on est en 2013. D'ailleurs, tu pars faire de l'entrepreneuriat avec les camarades.
Donc, même en 2009, en fait. Donc, en gros, je suis à HEC. À HEC, je fais déjà de l'entrepreneuriat puisque je suis vice-président de la junior entreprise. On lance plein de projets. J'accompagne plein de projets. Je vais au Vietnam pendant 6 mois. Je vais en Mauritanie pendant 6 mois. J'intègre la majeure entrepreneur, qui est une superbe majeure à HEC, qui te spécialise sur la création, la reprise et le développement de projets. Et durant cette majeure entrepreneur, je rencontre Pierre Dorcien. En fait, je co-crée un projet pour eux durant cette majeure entrepreneur. Donc déjà, à l'école, je lance un projet pour eux. Et puis, en fait, je travaille brièvement dans un grand fonds de capital risque qui s'appelle Sofinnova, qui est un fonds spécialisé dans la biotech et dans la médecine. Et puis, en fait, Pierre-Edouard, il me dit, écoute, viens me rejoindre. On ne va pas faire un fonds d'investissement, on va faire des projets, on va faire de l'entrepreneuriat, on va financer plein de projets. Et donc, je le rejoins et je travaille pour lui de 2009 à fin 2013.
Donc là, c'est plutôt pour apprendre, parce que les projets à l'époque, ce n'était pas forcément...
Exactement, pour apprendre.
D'accord, c'était ça. Mais tu avais déjà dans ta tête cette capacité de dire, un jour ou l'autre, mon projet...
Et j'ai rencontré des super entrepreneurs, le fondateur... La Fourchette, Bertrand, Antoine. Et puis, ça m'a permis de rencontrer plein d'entreprises en Europe, aux États-Unis.
À quel moment tu dis c'est le moment ?
En fait, début 2013, là, je commençais à avoir fait le tour et je commençais à vouloir faire un truc qui a un peu plus de sens pour moi. Et donc, j'avais choisi éducation et santé.
Avec deux options.
Et donc, c'est simple. Je m'étais dit, je veux faire un truc dans l'éducation et santé.
Et l'éducation et la santé ?
Ouais, non, soit l'un, soit l'autre, parce que c'était tellement dur et tellement gros que... Donc, éducation et santé. Pour être honnête, je voulais plutôt faire quelque chose dans l'éducation.
Qu'est-ce que tu avais regardé ? Qu'est-ce que tu avais trouvé d'incroyable à l'époque ?
Bah, mes parents,
tu regardais beaucoup de choses qu'il y avait aux États-Unis.
Mes parents, ils avaient regardé pour créer des écoles. Donc, mon père avait fait un business plan avec ma mère pour créer des écoles. Donc, je l'avais regardé un peu. Et puis, dans l'éducation, je m'étais dit, bah, comment on fait pour faire quelque chose sur 0-3 ans, 3-6 ans, puis la formation professionnelle. Et j'avais regardé pas mal de projets. J'avais un peu plus de réseau et de connaissances, en fait, dans l'éducation, oui. par ma famille. Et en fait, j'ai rien trouvé.
Rien du tout. Rien trouvé aux États-Unis que tu voulais amener en France.
Franchement, j'ai rien trouvé. Franchement, j'ai rien trouvé.
Donc là, tu t'es dit bon, allez, Doctolib, allez.
Ah non, absolument pas. En fait, je suis parti dans la santé. Là, on m'a mis en contact avec un entrepreneur qui avait un peu le même projet que moi dans la santé. Et là, j'ai fait un truc simple. Pendant 6 mois, j'ai fait du secrétariat et de l'assistanat médical. Et donc, en fait,
t'as appris.
J'avais aucun réseau, aucune connaissance. D'un soignant, des patients. J'avais un peu de connaissances par le sport, mais vraiment très, très peu. Et donc là, ce que j'ai fait avec Steve, mon associé de l'époque, qui est d'ailleurs encore avec moi.
Steve Abou-Ghirli.
Abou-Ghirli, exactement. Oui. Qui est un super entrepreneur aussi, qui était jeune. Il avait 20 ans, 22 ans à l'époque. Moi, j'en avais 26. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Boulogne-Billancourt. Et puis, on a frappé à la porte des cabinets.
Donc porte à porte.
Porte à porte. Donc j'ai fait du porte à porte.
Et ton bégaiement à ce moment-là?
Il était déjà mieux quand même. Je bégayais plus qu'en ce moment, mais il était déjà mieux. Et donc j'ai fait du porte à porte à Boulogne-Billancourt. Et puis petit à petit, avec effet de bouche à oreille et de réseau, j'ai commencé à travailler pour des cabinets dans les Yvelines, des cabinets.
Mais qu'est-ce que tu proposais?
En fait, au début, je proposais rien. Au début, je leur disais, vous avez besoin de quoi? Et donc au début, j'étais juste là pour comprendre comment ils travailler. Et en fait, très vite, j'ai compris que ils avaient...
Toi, des clients, la clientèle.
Non. En fait, très vite, j'ai compris qu'ils étaient en burn-out, qu'il y avait une charge de travail folle, qu'ils avaient une charge administrative folle, qu'ils avaient des outils technologiques d'un autre temps, et qu'ils étaient en demande d'avoir des outils nouveaux, qu'ils étaient en demande de soigner les patients différemment, qu'ils étaient en demande de travailler avec leur père différemment. Et donc, en fait, très vite, j'ai compris les besoins, une partie des besoins des soignants. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait en 2013-2014. Le deuxième truc que j'ai fait, c'est que comme je passais beaucoup de temps dans les cabinets médicaux, dans les hôpitaux, on a demandé aussi aux patients ce qu'ils avaient besoin. Et là aussi, très vite, on a compris que la santé, c'était un bien commun, l'une des choses les plus importantes qu'on ait tous. Et pourtant, le parcours de soins, il est opaque, il est complexe, j'attends des mois. Et je ne suis pas vraiment acteur de ma santé. Je n'ai pas de carnet de santé en ligne. Je n'ai pas de service nouveau pour gérer ma santé. Je reçois des soins de manière épisodique et plutôt curative. Donc, une fois que je suis malade, alors que je devrais recevoir de manière préventive avant que je sois malade ou de manière continue. Et donc, très vite, on a vu aussi les problèmes de l'accès aux soins, les problèmes de la santé des gens. Et puis, on a fait une troisième chose qui est d'étudier le système de santé. Puisqu'il y a beaucoup de littérature sur le système de santé, il y a beaucoup d'études sur le système de santé. Donc là, j'ai fait comme en prépa, j'ai pachoté pour étudier les comptes du système de santé, les problèmes du système de santé, les grandes pathologies, pourquoi ces pathologies existent. Donc là, on a étudié la médecine, étudié les systèmes de santé. Et donc en fait, j'ai pris ça, en gros, pendant 6 mois, même un peu plus, un an. Donc le quotidien des soignants et les besoins des soignants, le quotidien des patients, les besoins des patients, l'analyse du système de santé. Et puis, on en est venu avec ce projet un peu fou, qui est celui qu'on mène depuis 10 ans maintenant, qui est comment est-ce qu'on fait pour améliorer le quotidien des soignants, leur donner des super pouvoirs par la technologie, comment on fait pour améliorer la santé des gens, et comment on fait pour faire ça avec une boîte humaniste et éthique.
Ça... Quand je vois Doctolib aujourd'hui...
Et c'était le même projet il y a 10 ans. Quand on était 4, je t'aurais dit la même chose.
Stanislas, nous allons écouter une autre pause amicale. C'est parti.
Hello Stan. Alors ça fait maintenant plus de 10 ans que l'extraordinaire aventure Docto a commencé. Et moi, ma question pour toi, c'est avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement? Et si oui, ça serait quoi?
Question de...
Maxime.
Maxime Fargeau.
Vous êtes vraiment fort.
Ah, mais tu me le dis à chaque fois, j'aime bien ça. J'adore, tu continues, moi, ça continue à nous flatter. Donc,
il y a un ami d'enfance qui m'a aidé et soutenu depuis le premier jour, puisque je n'avais pas d'argent quand j'ai commencé Doctolib. Donc, j'ai mis 20 000 euros au départ. Il m'en a prêté quelques centaines de milliers Pour commencer Doctolib. Donc oui, Doctolib a commencé avec 20 000 euros et deux personnes. Ouais. et donc, écoute, moi, Max, je regarde très peu derrière moi. Donc je le fais aujourd'hui grâce à toi. Ouais. Mais déjà, je regarde très peu derrière moi. Je regrette très peu de choses, voire même qu'il y a aucune. Et donc, je ferai assez peu de choses différemment. Je pense que ce qu'on a bien fait et ce que j'espère qu'on va continuer de bien faire, c'est cette obsession sur les utilisateurs, cette obsession sur la technologie, la qualité de la technologie, et puis cette obsession sur la qualité de l'équipe. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs.
La grande erreur que tu as commise en 10 ans.
Je pense que entre 2020 et 2023, je me suis trop concentré sur... on a eu tellement de pression politique, médiatique, on a eu tellement de diffamation sur nous, sur l'utilisation des données, alors qu'on la protège et qu'on travaille extrêmement dur pour la sécuriser, qu'on n'a jamais utilisé une donnée. On a eu tellement de diffamation sur nous que ça m'a omnubilé, ça m'a empêché de dormir. J'ai travaillé sur ça et j'aurais pas dû, j'aurais dû continuer de me concentrer juste sur les soignants et les patients. Tu vois, ça, c'est une erreur.
Ça t'a fait mal, ça ?
Ouais, bah, bien sûr. Ouais.
Tu sais que c'est faux. Pourquoi ça te fait mal ?
Ça a un impact sur la confiance que les soignants... Côté patient, je pense pas, mais les soignants, ça a eu un impact.
T'as vu des soignants qui sont partis à ce moment-là ?
Alors, partis, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ça a eu un impact sur la confiance que les soignants avaient en nous. Alors que si les soignants travaillaient avec nous au quotidien, ils verraient que, évidemment, on n'est pas parfait, il y a plein de choses qu'on peut faire mieux, mais le niveau d'humilité, de concentration sur leur bonheur et leur satisfaction, il est extrême. Et donc... Je dirais que j'ai fait des erreurs sur les recrutements aussi. J'ai voulu recruter des personnes qui n'étaient pas forcément alignées avec les valeurs qui sont les miennes, qui sont les nôtres, qui sont des valeurs de travail, qui sont des valeurs d'humilité.
Donc, c'est-à-dire que tu as embauché des glandeurs, quoi.
Non, j'ai embauché des gens qui avaient de l'expertise sur le papier.
D'accord.
Mais l'expertise sur le papier, ça n'a pas fait...
Sur le terrain, c'est autre chose. Hein.
Ça n'a pas changé la vie des gens. Et donc oui, j'ai recruté des gens qui avaient de l'expertise sur le papier, mais qui n'avaient pas la même hygiène de travail.
Dans ces cas-là, quand tu le vois, tu mets rapidement fin
Pas été très bon sur ça.
T'as du mal à ça
J'ai du mal à ça.
Ah, t'as du mal à ça.
J'ai eu du mal à ça, j'ai gardé des gens longtemps qui n'avaient pas le même alignement sur les valeurs qui sont les nôtres. Je te dis, de travail, d'humilité... mais aussi de proximité avec les soignants, proximité avec les patients, sur la technologie. Donc voilà. La santé, c'est le secteur qui va le plus être révolutionné par l'intelligence artificielle. Pour une raison simple, qui est qu'un soignant, il est data scientist. L'intelligence artificielle, c'est l'illustration même de ce qu'on pourrait donner aux soignants pour les aider à prendre en charge les patients, pour avoir de la donnée patient plus intelligible et avoir accès à la bonne connaissance médicale au bon moment.
On continue avec une pause entrepreneuriat. On va voir quel est ton profil d'entrepreneur. Le meilleur conseil que tu aies reçu dans ton parcours d'entrepreneur ?
Pas forcément un conseil dans mon parcours d'entrepreneur, plutôt de sportif. Il y a un entraîneur à Poitiers qui m'a donné une règle. Avant de couper un arbre, qu'est-ce que tu fais ? T'as une scie, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu commences direct à couper l'arbre ou... Et il m'a dit, bah écoute, tu passes 50 minutes à aiguiser ta lame et 10 minutes à couper l'arbre. Et je trouvais que c'était un bon conseil sur l'apprentissage, sur l'humilité, sur la préparation. Donc j'essaie d'être toujours très préparé, très humble et de beaucoup apprendre. Donc ça, je pense que c'est un bon conseil. Après, j'ai eu des conseils aussi sur me concentrer juste sur l'utilisateur. Et ça, je pense que c'est un bon conseil, être toujours obsédé sur comment est-ce que tu peux créer plus de valeur pour tes utilisateurs. Ne jamais perdre ça et l'avoir comme une boussole toujours, toujours, toujours. En fait, tes utilisateurs, c'est toujours plus important que tout le reste. Franchement, la partie financière, levée de fonds, les utilisateurs, c'est toujours la chose la plus importante.
La recette pour une bonne association pour toi ? Parce que vous avez commencé à 2, puis 4,
ouais.
Donc une association réelle. Il y a une recette pour toi ?
C'est la franchise, je pense. Il faut dire les choses.
Donc là, on parle
Et il faut accepter la différences. Moi, pour le coup, je me suis associé avec des gens qui sont très différents.
En parlons-en, hein, Jesse Bernal, Yvan Schneider.
Exactement.
Donc,
et Steve.
Et Steve.
Là, Yvan et Jesse, moi, la première fois que je les ai vus, ils m'ont dit... moi, je leur ai dit, écoutez, Yvan, Jesse, la santé, c'est une des choses les plus... C'est important au monde. Pour aller changer le quotidien des soignants et des patients, il faudra être des milliers de personnes, sinon on n'y arrivera pas. Et Jesse m'a dit, bah, écoute Stan, moi je ne veux pas être plus de 37. Ils avaient une règle du fondateur de 37 Signal qui était, on ne veut pas être plus de 37. Et puis Yvan et Jess, ils m'avaient dit aussi qu'ils ne voulaient pas trop travailler.
Ça commence mal, c'est comme ça.
Et donc je leur ai dit, bah, écoute, moi je veux être 10 000, parce que pour améliorer le quotidien des gens, il faut être très nombreux. Sinon, en fait, tu ne pourras pas aller avoir une approche locale, tu ne pourras pas créer des technologies de rupture. Et il faut travailler dur. Et bon, finalement, ils m'ont rejoint dans l'aventure. Et finalement, on n'était pas 37 et on a travaillé dur. Et donc, je pense que pour une bonne association, il faut avoir de la complémentarité et il faut avoir de la franchise.
L'appli que tu utilises le plus souvent ?
L'application ?
Ouais.
Bah, c'est Doctolib. Puisque je...
Ah, ouais, d'accord. Alors, la deuxième application ?
Écoute, bah, c'est Eurosport.
Eurosport ? On voit le fan
parce
de sport.
Que je suis un fan de sport, un fan de ski. Et comme Eurosport est très positionné sur le ski, avec ma femme, on est allé à Kitzbühel, on est allé même en Russie voir les Jeux Olympiques.
Sochi, oh là là, dis donc, ouh là là.
Et donc, nous, on est vraiment des fans de ski. On est allé à Holmenkollen. Je vous recommande d'aller à Holmenkollen. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Holmenkollen.
C'est
au nord de Oslo. C'est la mecque du ski de fond, du biathlon, du saut à ski. Et donc, on est allé voir les phases finales de Coupe du Monde de biathlon avec Martin Fourcade.
Et ben, on a de la chance parce qu'on a fait la même chose et on a été avec Martin également là-bas pour la finale. C'est parce que dans le biathlon, quasiment tous les ans, la finale, les dernières épreuves se situent justement là. Et donc,
c'était pas le cas cette année puisqu'on a offert ça à mes parents qui sont allés à Holmenkollen, mais c'était pas le cas.
On revient à Doctolib, on a parlé des levées de fonds. Toi, tu dis que ce n'est pas vraiment un sujet, en tout cas, ça n'a jamais été celui-là. Parlons quand même du début, quand tu vas devoir convaincre des gens. Parce que ça aussi, c'est quand même c'est notre quotidien à tous. Hein. Il y a toutes et à tous de devoir convaincre des gens. Toi, au départ, tu arrives, tu dois quand même aller chercher un peu d'argent. Ton diplôme te permet facilement d'arriver à avoir des bons réseaux. Comment ça se passe, ta première levée de fonds, toi ?
Alors non, ce n'est pas mon diplôme. C'est que les gens avec qui j'ai travaillé entre 2009 et 2013, dont Antoine, et ils m'ont suivi à ce moment-là. Et donc, en gros, j'ai travaillé avec des super entrepreneurs entre 2009 et 2013. Et donc, quand je me suis lancé, ça faisait 4 ans que je travaillais pour eux et avec eux. Et donc, ils savaient que... je voulais faire quelque chose de bien pour les gens, les soignants et les patients. Ils savaient que je travaillerais dur et que j'arriverais à trouver un moyen de faire une entreprise pérenne. Et donc, ils m'ont suivi à l'époque. Donc, ils ont mis million d'euros. Donc, c'est Antoine Fraisse,
ouais.
Olivier Occelli, Bertrand Gélin-Sperger, Maxime.
Oui, bien sûr, Farjan.
Bonjour.
Citons-les, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont confiance... Au début, en quelques jeunes
après,
qui...
Pierre Cotus-Comorizet, Pierre Kriegs.
Donc l'équipe de...
Carnel.
De Carnel, oui, mais avant, c'est ceux qui avaient... Price Ministère, qui avait été revendu à Rakuten.
C'est des entrepreneurs français qui m'ont fait confiance et qui m'ont soutenu au départ. Hein. Je te l'ai dit, j'avais 20 000 euros, j'ai mis 20 000 euros. Hein, donc, je n'avais pas plus que ça. C'était déjà très bien, hein, 20 000 euros. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas mettre 20 000 euros. Et donc, j'ai mis ça au départ. Et en fait, j'ai juste travaillé dur pour les soignants.
Et donc, après, ça a été un peu plus, quelques millions, puis quelques dizaines, puis une levée de fonds de 150 millions, puis une levée de fonds de 500 millions. Donc là, on est sur des sommes qui sont considérables. À ce moment-là...
En fait, cet argent... Il m'a juste permis de pouvoir recruter des gens pour créer des technologies, des services nouveaux.
Mais il ne faut pas.
Bien au contraire.
Tu le dis, j'ai l'impression que c'est. Enfin, encore une fois, tu as raison. Ce qui est important à dire, c'est que tu ne l'as pas pris en cash out. Enfin, c'est-à-dire que tu ne l'as pas pris pour financer ton train de vie là-dessus. Toi, tu es encore l'actionnaire principal de Doctolib.
Je suis le premier actionnaire.
C'est le premier actionnaire, c'est ça. Je n'ai pas dit majoritaire. C'est pas principal dans le sens, c'était le premier actionnaire. Jusqu'à aujourd'hui, tu as assez peu touché d'argent quand tu as fait ces tours de table, alors que pour d'autres, ça aurait pu être vu différemment. Donc, on sent bien qu'il y a cette passion. Mais une question, est-ce que tu as réussi vraiment à choisir tes actionnaires ? Est-ce que ces valeurs, on ne va pas citer les actionnaires, mais est-ce que les valeurs qui sont défendues par ces actionnaires sont les mêmes que les tiennes ?
Écoute, la réponse est oui. J'ai eu pas mal de chance. Donc j'ai choisi les entrepreneurs qui m'ont accompagné depuis le début. J'ai choisi que l'État français, par l'intermédiaire de la BPI, devienne actionnaire de Doctolib. Donc c'était un grand choix.
Bravo BPI, comme d'habitude, on l'adore. Nicolas
exactement.
Dufour qui était ici, on adore Nicolas Dufour qui en adore la BPI.
Et pour le coup, j'ai choisi que l'État soit avec nous. Pourquoi ? Parce que je pense que la santé, c'est un bien commun. Et que la santé, pour essayer de participer à la changer, c'est un projet de long terme. Et donc, il faut des investisseurs de long terme. Mes autres investisseurs sont des investisseurs de long terme. Ils m'ont suivi depuis 2015. Ils sont encore là. On est en 2024. Ils ont réinvesti parfois 3, 4, 5 fois à mes côtés. Certains ont investi dans Doctolib. On était moins de 100 personnes. On est près de 3000 aujourd'hui. Et donc oui, j'ai choisi que des investisseurs de long terme. J'ai choisi aussi d'avoir un conseil d'administration qui permet de laisser la majorité aux entrepreneurs, à l'équipe de management. Pourquoi ? Parce que notre projet, c'est un projet de long terme. Et donc c'est un projet de long terme parce que pour aller changer le quotidien des soignants, pour aller faire des logiciels qui les aident à gérer leurs patients, à faire de la prévention, à coopérer avec les autres soignants, à aider à la prise en charge, aider au diagnostic, c'est un projet de long terme. C'est dur. Pour aider les patients à accéder plus facilement à la santé, c'est un projet de long terme, c'est dur.
Donc cet argent-là te permet à faire beaucoup de choses. On va revenir là-dessus, en tout cas sur deux ou trois de ces grands projets. Tout d'abord, l'international. Les personnes qui nous écoutent aujourd'hui connaissent Doctolib la plupart du temps, donc dans le monde francophone. Mais tu as décidé aussi d'aller attaquer d'autres pays. Exactement. Comment ça se passe aujourd'hui, l'Italie, l'Allemagne, qui sont les pays sur lesquels tu t'es développé? C'est quoi l'objectif? Où t'en es? Comment ça se passe?
Alors, on n'a pas eu une stratégie internationale très ambitieuse, pour être honnête. Au début, on a fait France-Allemagne. Donc, France pendant 4-5 ans, jusqu'en 2018. Et après, on s'est dit que, pour une fois, on avait une technologie française qui était l'une des meilleures au monde. Pour une fois, on avait une approche française qui était l'une des meilleures au monde. Et donc, on allait essayer de l'internationaliser. Et donc, on a lancé l'Allemagne en 2018. Moi, j'ai passé 2-3 jours par semaine pendant 2-3 ans, un peu partout en Allemagne. Donc, je suis allé dans toutes les villes d'Allemagne. J'ai fait des centaines, des milliers de cabinets en Allemagne. Je ne parle pas un mot d'allemand, donc tout avec mon French English, mon français anglais, pour aller comprendre les cabinets allemands qui sont plus gros, plus structurés que les cabinets français. J'ai appris énormément de choses en Allemagne que j'ai d'ailleurs importé en France.
Après.
Et donc, on a créé une vraie réussite franco-allemande puisque maintenant, on a plus de 800 personnes en Allemagne. On a 19 millions d'Allemands qui utilisent nos services. On a près de 100 000 professionnels de santé, secrétaires médicales allemandes. Puis on est devenu la première application santé en Allemagne, ce qui est très, très rare. Je ne sais pas si tu connais un peu la technologie en Allemagne, mais je sais que tu la connais. C'est très, très rare de pouvoir importer des technologies en dehors d'Allemagne. Donc, on a réussi, mais ça a été dur et long. Italie, depuis 2 ans. Donc là, on a recommencé aussi.
Donc, tu as 2-3 jours par semaine là-bas ?
Alors non, là, pour le coup, on a des équipes maintenant sur place. D'accord. On a 300 personnes à Milan, mais aussi un peu partout en Italie. Donc là, en fait, le concept, il est le même. Changer le quotidien des soignants, changer le quotidien des patients. Bien sûr, on a beaucoup plus de ressources technologiques et humaines maintenant. Et on a lancé aussi en Belgique et aux Pays-Bas, puisqu'on s'est associé avec une équipe néerlandaise. Et donc, on a quelques centaines de milliers d'utilisateurs soignants en Belgique et Pays-Bas. Pas encore patients, parce qu'on n'a pas encore lancé nos services pour les patients en Belgique et Pays-Bas. Voilà, c'est sur l'international, nous, ce n'est pas notre priorité numéro un. La priorité numéro un, c'est d'avoir les meilleures technologies pour les soignants et les patients. Alors, et après, l'international, ça va venir avec ça.
On comprend que c'est déjà venu, hein, donc c'est là déjà quand même pas mal avancé. Justement, en parlant de ce deuxième grand projet, tu parlais tout à l'heure d'IA. Comment toi tu vois l'IA dans le monde de la santé ?
La santé, c'est le secteur qui va le plus être révolutionné par l'intelligence artificielle. Pour une raison simple, qui est qu'un soignant, il est data scientist. Si tu prends un pas de recul, un soignant aujourd'hui, il prend les données de ses patients, qui collecte de plein de sources différentes, le patient lui-même, mais aussi le laboratoire, la radiologie. Donc, il prend les données du patient, il essaie de les structurer, les codifier, les analyser. Et il prend les données de connaissances médicales, et là aussi, il essaie de les analyser, les structurer, les appliquer dans le contexte du patient qu'il a en face de lui. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est l'illustration même de ce qu'on pourrait donner aux soignants pour les aider à prendre en charge les patients, pour avoir de la donnée patient plus intelligible, plus claire, plus structurée, plus codifiée, la bonne donnée au bon moment, et avoir accès à la bonne connaissance médicale au bon moment. 30% des données du monde sont des données de santé. Or, on le sait, vos données, elles sont partout. Et elles sont ésotériques, non structurées, non codifiées. Les soignants n'y ont pas accès. Vous-même, vous n'y avez pas accès. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va révolutionner la santé. Par contre, dans la santé, il y a des règles de sécurité, de protection et de précision qui sont sans commune mesure par rapport aux autres secteurs. Donc oui, l'intelligence artificielle dans la santé, appliquée à la santé, elle va révolutionner le quotidien des soignants et des patients. Par contre, quand elle touche au diagnostic, quand elle touche à l'aide à la prise en charge, il y a un niveau de précision requis qui est 10 fois supérieur à ce qui est fait par l'intelligence artificielle ailleurs. Par contre, moi, je ne crois pas que l'intelligence artificielle va remplacer les soignants. Je ne le crois pas. Au contraire, je pense que l'intelligence artificielle, elle va créer beaucoup d'humanité parce qu'elle va redonner beaucoup de temps aux soignants. Elle va redonner beaucoup de compétences, voire même accès à des choses nouvelles que les soignants n'envisageaient même pas aujourd'hui.
Donc là, on parle de ce des fonds levés, on parle de l'utilisation de ces fonds, dans ces nouvelles technologies, dans l'utilisation de la meilleure compréhension des outils qui arrivent sur le marché. Toi, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu travailles beaucoup, je voudrais dire énormément sur ce projet-là, qui te passionne, qui te motive, qui, voilà, c'est ta mission aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à te dire, comme beaucoup d'entrepreneurs, bon, il y a un moment ou un autre où je vais le racheter, je vais le vendre, je vais gagner de l'argent et je ferai quelque chose après. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu arrives à dire, bon non, vous savez quoi? Écoute, tu parlais du capital long terme. Est-ce que tes actionnaires, qui sont quand même importants, ouais, ils disent au bout d'un moment, c'est ça, on va quand même essayer de récupérer un peu de notre argent? Il y a une pression évidente qui existe de la part des financiers. Comment tu la gères, ça?
Écoute, bah, alors, déjà, mes actionnaires, ils sont minoritaires.
Bien sûr.
Et puis, ils sont plutôt ils sont plutôt contents quand même de ce qu'on a fait depuis 10 ans. Puisqu'on a travaillé dur et qu'on est utilisé par 80 millions de personnes et 800 000 professionnels de santé. Et on a, je pense, changé le quotidien de beaucoup de patients et de soignants. Et donc, voilà. Et
mais un investisseur a quand même un objectif de rentabilité.
Bien sûr.
Après,
on peut remplacer ces investisseurs par
bien
d'autres
sûr,
investisseurs.
Bien sûr, c'est ça, bien sûr.
Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Franchement, j'ai un niveau de motivation qui est 3 fois supérieur à ce que j'avais il y a 10 ans. Et ce qu'on est en train de faire sur la technologie et les innovations aux côtés des soignants et des patients, pour moi, et on est au tout début de ce qu'on doit et de ce qu'on peut faire, et je le pense très sincèrement. Et donc, je ne suis pas du tout prêt à finir mon aventure Doctolib. Ça ne veut pas dire que je passerai 40 ans encore chez Doctolib, je n'en sais rien. Par contre, aujourd'hui, mon niveau de motivation est extrême.
On va continuer les pauses amicales, familiales. On écoute maintenant quelqu'un dont nous avons parlé, que j'apprécie aussi beaucoup. On l'écoute.
Salut Stan, c'est Antoine. Dis-moi, si tu avais du temps en dehors de Doctolib, ce qui est bien sûr une question un peu théorique, tu aurais envie de lancer quel nouveau business là en 2024? Est-ce que tu aurais quelques thèmes, quelques concepts à partager avec Alexandre, moi-même et les auditeurs? Je te souhaite un bon podcast, une bonne journée. Salut.
Alors là, tu dois répondre.
Merci Antoine. Je vais répondre.
Si t'avais, justement, on oublie tout ça. Tu n'as jamais eu Doctolib. Tu es là en disant, tiens, je vais me lancer. Ce serait quoi, toi, aujourd'hui, l'entrepreneur qui est en toi, il ferait quoi?
Déjà, je remercie Antoine. Bah oui, l'un des premiers aussi à m'avoir
fait confiance.
Fait confiance, soutenu. Pas que en 2013 pour Doctolib, mais en 2009. La première fois que je l'ai vu près de l'opéra.
Il est génial. Il est génial.
Et donc voilà, il m'a fait confiance. Et pour le coup, on est alignés sur les valeurs. Moi, j'ai pas mal de projets dans les décennies à venir autour de la santé mentale et potentiellement aussi autour de la recherche clinique dans l'univers de la santé mentale. Donc, si j'avais pas Doctolib, je pense que je travaillerais pour lutter contre toutes les pathologies qui touchent de près ou de loin la santé mentale.
Merci d'avoir répondu cela. Ça m'arrange parce qu'on va parler de ta première manière de rentrer dans ce monde-là en ayant développé ta fondation qui s'appelle Ocola. Tu l'as lancée assez récemment, en 2022, avec Marine, ton épouse, et également Alexandra Bouin-Jacquet, en faveur du bien-être physique, psychologique et social de l'enfant. Raconte-nous un peu plus.
On a pour projet avec Marine de reverser une part significative de nos gains terrestres, notamment Doctolib, mais potentiellement d'autres demain, dans des causes au service du bien commun. Et donc on a créé Ocola, tu le disais, il y a 2 ans, 1 an et demi. On a une super équipe avec Alexandra, Clémentine et Arthur, et Marine bien sûr. Moi j'y passe peu de temps, donc tout le mérite est pour eux. Et donc on a 3 projets à court terme. Aider les enfants protégés, parce qu'il y a 350 000 enfants qui sont protégés par l'aide sociale à l'enfance.
L'ASE, ouais.
Aujourd'hui, l'ASE. Donc il y aurait plein de projets à soutenir pour aider ces enfants qui sont dans des situations d'extrême difficulté par rapport à d'autres enfants. Donc comment est-ce qu'on les aide sur leur santé, leur développement, pour qu'ils aient les mêmes chances que nous tous. Notre deuxième projet, il est autour du développement de la santé de l'enfant de 0 à 3 ans, puisque là, c'est le creuset des inégalités, malheureusement, puisque c'est avant l'école.
Bien sûr, l'État ne s'en occupe pas, pas parce qu'elle ne veut pas s'en occuper, mais parce que l'école n'est pas obligatoire.
Exactement. Avant 3 heureusement, ans. L'école est devenue obligatoire à 3 ans.
Exactement.
Mais avant 3 ans, l'école n'est pas obligatoire. Et donc, c'est le creuset des inégalités. Des inégalités sociales, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, donc là, on a des projets autour de la santé et du développement de l'enfant de 0 à 3 ans. Et puis enfin, un dernier projet autour de la santé et du bonheur de l'enfant à l'école et en dehors de l'école, donc pas que de 0 à 3 ans. Autour du bégaiement, du harcèlement, de la santé mentale de l'enfant. Donc voilà, donc on a commencé à soutenir quelques projets que je peux peut-être citer, comme ça les mettra en avant. Sur la partie harcèlement scolaire, sujet très important puisque 1 million d'enfants touchés tous les ans
sont harcelés. Hein.
Donc bien sûr, ça a été mon cas étant enfant à cause de mon bégaiement et j'en ai souffert énormément. Et donc sur le harcèlement, on soutient le centre Résis, qui sont les experts français des méthodologies de détection et gestion des cas de harcèlement. Donc, ils forment les écoles, collèges, le corps enseignant à cette méthodologie de détection et de gestion des cas de harcèlement scolaire. Bravo à eux, ils sont au début et ils vont former, j'espère, quasi toutes les écoles, collèges, lycées français à cette méthodologie. On soutient aussi Free for Morbury, qui est une méthode issue des pays nordiques, qui apprend la bienveillance à l'école, toutes les compétences psychosociales des enfants. Et donc voilà, donc on soutient cette méthode et le déploiement de cette méthode. Donc elles viennent avec des mallettes dans les écoles de tes enfants, de vos enfants, pour aider à la formation des enfants sur la bienveillance, l'écoute, l'empathie. On est en train de lancer un accélérateur d'associations qui aide à lutter contre le harcèlement scolaire, à la fois dans la prévention, détection et gestion autour du harcèlement scolaire. Donc voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Donc Ocola, O-K-O-L-A.
Sur l'aide sociale à l'enfant, je peux peut-être revenir aussi sur ça. Hein. Je ne sais pas si tes auditeurs ils le savent, mais 350 000 enfants en France. 350 000 enfants. La moitié sont placés, la moitié ont des mesures éducatives. Et ceux qui sont placés aujourd'hui, la moitié en établissement, la moitié en famille d'accueil. Il manque plein de familles d'accueil. Il manque des places dans les établissements, il manque des ressources pour ces établissements. Je ne comprends d'ailleurs pas que l'État ne finance pas encore plus ces enfants. Il y a déjà un budget que les collectivités allouent à l'aide sociale à l'enfance, mais franchement, c'est un scandale la prise en charge de ces enfants du plus jeune. Ils sont dans des situations terribles. Donc nous, on soutient un projet qui est Colibri, qui a créé 14 lieux de vie d'accueil des enfants, qui accueille aujourd'hui 140 enfants, qui va en accueillir de plus en plus, qui a une méthodologie nouvelle de prise en charge de ces enfants, avec un soutien notamment psychologique.
Stanislas, encore une pause amicale. On l'écoute, on en a parlé juste à l'instant.
Hello Stan, quasiment 10 ans à tes côtés à parler de Doctolib et maintenant d'Ocola. Et finalement, assez peu de ta famille. Alors je sais très bien l'importance qu'elle a à tes yeux. Et du coup, ma question aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants ?
Question d'Alexandra Bouin-Jacquet, qui travaille avec toi chez Doctolib, puisqu'elle était ton chief of staff, directrice de communication, et qui est avec toi dans l'aventure au Cola.
Alors, très bonne question. Merci Alex pour cette question. Moi, j'ai envie de leur transmettre l'écoute et la bienveillance. J'ai envie de leur transmettre le travail. En fait, j'ai envie de leur transmettre les deux choses principales que m'ont transmises mes parents. Et donc, capacité à se dévouer, à travailler dur, et puis capacité à être bienveillant, à l'écoute des autres. Et en fait, le reste, pour moi, ça vient avec.
On va passer à une dernière pause, une pause familiale. On écoute.
J'ai la chance de te connaître depuis 20 ans et surtout d'avoir grandi avec toi. Tu le sais, tu as un repère pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes, car tu as toujours ce regard rassurant, bienveillant, qui permet à l'autre de croire en lui et surtout de rendre l'impossible faisable. Ma question, tu la connais car je te la pose souvent. Et toi, sur qui te reposes-tu? Comment fais-tu pour ne pas t'oublier?
Merci pour la question.
C'est beau, hein? Elle parle bien, Marine.
Écoute, je me repose sur toi.
Tu vois, non, c'est ça que...
Je me repose sur toi et puis je me repose sur, sur tous les gens avec qui je travaille. Moi, je suis un vrai équipier. Pour le coup, j'ai beaucoup souffert pendant, quand je jouais au tennis d'être super isolé. Parce que le tennis, comme je le disais au début de ce podcast, c'est un sport très individuel. Même si parfois, il y a des équipes autour, mais c'est quand même très individuel. Et j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais petit. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis un vrai équipier. Et donc moi, je me repose sur mes équipiers.
Mais t'es un peu en haut là, de votre chaîne. Donc c'est ce qu'elle te dit, Marine, en disant ça. C'est que toi, tu t'occupes de toujours. Elle le voit comme ça. En tout cas, les gens proches, ils voient que tu t'occupes des équipiers, des salariés,
moi, tu vois, je suis
de la famille.
Pas tôt, c'est-à-dire que... Et là, vous n'avez pas... interroger des personnes qui ont travaillé chez Docto, remarque une ou deux au début, mais moi je suis dans le bateau, quoi. Je rame dans le bateau et je suis pas.
Je suis d'accord, mais
tout,
tu t'occupes. La question de Marine est un peu différente, puisque en effet, je pense que tu te reposes sur elle, ça c'est sûr. Je pense que plus que des équipiers, j'entends ce sujet dire, je m'occupe de la question, c'est à un moment ou à un autre, sur qui tu vas pouvoir vraiment. Aujourd'hui, tout le monde attend que tu prennes la décision, que j'en parle, hein, parce que je suis moi-même dans une position comme ça. Je suis le père de famille, je gère ça depuis des années et des années. Ça soit la même chose dans mes entreprises. Il y a un moment ou un autre où il y a un moment où tu dis, mais sur qui tu peux comme ça t'arrimer, tu sais, te mettre une main en disant juste, je vais respirer un peu, je vais, voilà, comme toi, moi j'ai évidemment mon épouse, mais... C'est ça que je veux dire. C'est à quel moment tu dis, tiens, donne-moi toi, 2 heures, je vais...
Vraiment, hein, je te le dis, moi, je me nourris des autres. Et aujourd'hui, Marine est la femme de ma vie et ce qu'elle fait au quotidien est extraordinaire pour moi, pour nous. J'ai des familles extraordinaires et t'en as interrogé quelques-uns, dont Max s'aide. Et puis surtout, j'ai des équipiers aussi extraordinaires. Et vraiment, je le dis, le dévouement des gens chez Doctolib, je pense qu'il est sans commune mesure. Il est vraiment sans commune mesure. Alors, je n'ai pas connu beaucoup d'entreprises. Et bien sûr, ce n'est pas les 2800 personnes. Mais le dévouement, il est extraordinaire. Et franchement, parfois, je suis vraiment ému de voir ce dévouement. Je le suis d'ailleurs là. Et je me repose beaucoup sur eux.
Merci, Marine, pour ta question. Je vous propose maintenant une pause musicale. Stanislas, quelle est ta chanson culte? Alors, c'est facile parce que comme tu écoutes tous les podcasts...
Je suis arrivé préparé.
Alors, est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que là, après tout ce moment ensemble, tu dis, mais non, en fait, je vais sortir autre chose? Ou est-ce que tu sais ce que tu vas choisir?
Écoute, moi, je voulais te sortir Ensemble de Grand Corps Malade.
Ah, ben moi, je peux pas ne pas...
Moi, je suis un fan de Grand Corps Malade depuis 20 ans. Marine te le dira, je sais que tu aimes bien Grand Corps Malade aussi.
C'est pas que j'aime bien, hein, c'est donc, que j'adore.
Et donc moi, je suis même depuis plus de 20 ans maintenant, j'étais un des premiers à l'écouter. Je suis allé le voir en concert il y a quelques jours et j'adore ce qu'il fait, j'adore ses textes. Je le connais pas personnellement, donc j'espère que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, ses textes sont bien. Mais donc voilà, et ensemble de Grand Corps Malade.
En effet, je vous conseille tous d'écouter du Grand Corps Malade, d'aller à ses concerts, d'acheter ses albums, et puis parce que c'est une personne bien. Plus que bien.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème.
Et nous allons terminer avec une pause flash, quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Ça a commencé, c'est dur la première question, tu voilà. vas voir. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi ?
En fait, je veux pas qu'on se souvienne de moi. En fait, moi, je veux qu'on se souvienne des choses que j'ai faites. Et donc, je veux qu'on se souvienne que Doctolib, ça a changé le quotidien des gens, soignants et patients. Je veux qu'on se souvienne qu'il y a plein de projets qu'on a soutenus chez Ecola. En fait, je veux qu'on se souvienne des choses et des projets.
Pas toi, mais de ce que tu auras fait. Est-ce qu'il t'arrive souvent de mentir ?
Écoute, il m'arrive jamais de mentir. Je suis très mauvais à ça. Et d'ailleurs, c'est parfois, c'est un défaut, c'est que j'ai même du mal à mentir par omission.
Les mensonges blancs, c'est ça qu'on dit, les faux mensonges.
Et moi, j'ai assez du mal. Pour le coup, je parle beaucoup trop. Je suis beaucoup trop direct, mais en même temps, c'est une énorme force.
Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence ?
Franchement, je suis super indulgent. Parce que le truc où je suis pas trop indulgent, c'est l'écoute et la capacité à poser des questions. Les gens qui ne posent pas de questions, ça me rend dingue. Les gens qui sont super forts mais qui n'écoutent pas, ça me rend juste dingue.
Si tu pouvais te réveiller demain avec une qualité que tu n'as pas aujourd'hui, ce serait laquelle ? Tu n'allais pas au grand oral d'HEC celle-là, hein ?
Écoute, de parler toutes les langues du monde.
Ça, moi j'achète. Ah, moi j'achète.
C'est mon rêve.
Ah, moi aussi.
Parler toutes les langues du
monde. Ah, là, on n'y arrivera pas. Tu es au courant de ça ?
Ouais, je sais. Moi, en plus, je suis très mauvais en langue.
Ah, mais qu'est-ce que moi j'adore.
Mais parler toutes les langues du monde.
Là, tu vas dans le dur. Tu vas
en Allemagne, là, j'ai beaucoup, beaucoup souffert de parler que l'anglais. En Italie, je souffre beaucoup aussi de parler que l'anglais. Bon, heureusement, en France, je parle le français, donc ça va. Mais voilà, parler toutes les langues du monde.
Qui aimerais-tu entendre sur pause dans l'avenir ?
Michael Jeremias.
D'accord.
Je sais pas si tu connais.
Bien sûr, un grand tennisman paralympique, puisqu'il a gagné à Londres, je crois, une médaille.
Champion paralympique, olympique, mondial, voilà, qui est très engagé dans le handicap, très engagé dans toutes les causes.
Il a été très proche, il est toujours très proche de Paris 2024, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Michael Jeremias, je l'invite très bien à ton podcast. Rai aussi, je l'invite très bien à ton podcast. Si tu peux inviter Rai, je ne sais pas si tu vois.
Bien sûr.
C'est Rai, joueur de foot.
Joueur de foot, longtemps. Longtemps, mais non, je crois
très
qu'il
bien,
est,
Rai, il est très engagé en plus.
Ambassadeur du PFC, du Paris Football Club maintenant.
Mais surtout, il est très engagé dans des causes au Brésil, très engagé sur les causes autour de l'enfance.
C'est bien, tu nous donnes plein d'idées.
Je t'invite. T'en as bien, comme Rai, ça à ce podcast.
Quelle est ta destination idéale pour faire une pause ?
Écoute, Saint-Nicolas de Véros, en Haute-Savoie. S'il y a une église incroyable, on s'est marié d'ailleurs. Allez voir cette église de Saint-Nicolas qui a été refaite récemment. Et puis voilà, c'est un petit village en face de la montagne, face des dômes de Miage et du Mont Blanc.
Si les auditrices et les auditeurs donc ont des questions, ont des projets pour Ecola, veulent venir travailler pour Doctolib, des docteurs, des patients, des gens qui veulent s'associer à ta mission de vie, comment ils font pour te contacter ?
Écoute, LinkedIn, je pense, c'est le mieux.
C'est le plus simple.
LinkedIn, c'est le plus simple. Le reste des réseaux sociaux, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. Mais donc, LinkedIn, c'est le plus simple. N'hésitez pas. Comme je l'ai dit, on n'a qu'une vie et aller changer le quotidien des patients, des soignants, changer le quotidien des enfants. Je pense que c'est des belles causes.
Stanislas ? Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à tous.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.